Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM et comme chaque mercredi à partir de 16h et jusqu'à 16h30, voici l'émission qui a changé de nom depuis l'année dernière, donc avec cette nouvelle rentrée, nouveau nom, Campus Lille Info. Une émission consacrée à l'Université de Lille. Partenariat avec l'Université de Lille que nous accueillons, eh bien, ont un rapport avec l'université. Et c'est le cas aujourd'hui de notre invité qui s'appelle Marc Lobel et qui est étudiant de l'Université de Lille. Bonjour Marc Lobel.
Bonjour René.
On va parler d'un sujet passionnant qui est un périple réalisé à vélo en Europe pendant une période assez longue d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Oui. Donc un tour d'Europe que j'ai commencé en janvier dernier et que j'ai terminé récemment en août, le 15. Et donc je suis parti pendant 7 mois en tout, à travers toute l'Europe en quelque sorte. Oui.
Alors quand on est étudiant lillois, qu'est-ce qui nous pousse à aller vers l'étranger, en l'occurrence l'Europe?
Bah, c'est mon envie de découvrir l'Europe. Vraiment le cœur de celle-ci. J'avais vraiment l'impression de connaître au final très peu les pays européens, les différents pays, juste quelques capitales. Et donc j'ai souhaité aller en vélo à travers l'Europe pour rencontrer les cultures, découvrir les pays tels qu'ils sont et pas me fier à des images que je pouvais avoir avant.
J'imagine qu'à vélo, l'Europe paraît très grande.
Oui, c'est vrai que le temps passe plus lentement, on a plus le temps de
savourer.
Exactement, oui, de savourer, de rencontrer les gens, de prendre du temps avec eux pour discuter, pour comprendre ce qu'ils font, leur mode de vie, et puis en apprendre plus sur eux, oui.
Donc, à vélo, ça paraît simple, mais avec tout l'équipement pour pouvoir camper, là, ça devient plus lourd.
Oui, c'est vrai que c'était assez lourd, le vélo faisait 45 à 50 kilos, dont 35 kilos de chargement. Donc c'est vrai que dans les côtes, je le sentais. Oui. C'était assez difficile parfois. Oui.
Bon, on ne va pas citer forcément la marque du vélo, mais il a tenu le coup jusqu'au bout.
Oui, j'ai vraiment eu très peu de casse. J'ai eu juste ma béquille qui avait cassé une fois, mais que j'ai pu faire réparer grâce à l'aide de personnes rencontrées sur la route. Et puis j'ai dû changer aussi des pièces d'usure, mais ça c'est quelque chose d'assez classique. Donc à part ça, non, j'ai été relativement chanceux. Oui.
Et grâce aux normes européennes, on trouve des pièces calibrées partout.
Oui. En plus, ben, là où j'ai eu besoin de pièces pour changer mon vélo, c'était le hasard fait bien les choses en France. Mais je pense que dans pas mal de pays, j'aurais pu trouver sans souci, ouais, des pièces qui seraient bien allées sur mon vélo. Oui.
Alors c'est vrai que quand on va à l'étranger, la première difficulté qu'on peut rencontrer, c'est la langue. Est-ce que c'est vraiment une barrière ?
Alors ça pouvait être une barrière, oui, quand j'avais besoin de demander des choses assez précises ou par exemple quand je demandais l'hébergement, c'était parfois difficile de se faire comprendre ou j'avais souvent des traductions faites sur internet et du coup c'était pas toujours très bien fait, les gens pouvaient ne pas très bien comprendre, il y avait parfois des non-sens et du coup ouais, là, j'aurais bien eu besoin d'avoir quelques langues en plus.
Par exemple, lesquelles ?
Par exemple, l'allemand et le russe, ça aurait été intéressant de pouvoir les parler, surtout dans les pays qui ont appartenu au bloc de l'Est, parce que voilà, dans ces pays, beaucoup de gens entre 30 et 60 ans, qui ont entre 30 et 60 ans aujourd'hui, ont appris l'allemand dans leur jeunesse, donc ça aurait été beaucoup plus simple pour moi.
Voilà, donc vous partiez avec un vélo, peut-être aussi un peu de documentation. Qu'est-ce que vous avez choisi d'emmener ?
Alors j'ai choisi d'emmener assez peu de documentation pour pas trop m'alourdir. J'avais pas mal de cartes pour pouvoir m'orienter assez facilement et puis aussi pour pouvoir assez simplement demander ma route si j'avais besoin. Et je comptais en fait sur les habitants pour pouvoir me proposer des choses intéressantes à voir ou des itinéraires différents à suivre pour découvrir au mieux leur pays en fait.
Le GPS à vélo exclu ?
Alors j'avais un GPS sur mon téléphone dont je me suis servi uniquement quand il fallait trouver une adresse précise Par exemple pour dormir chez quelqu'un, ou lorsque j'étais un peu perdu, ou lorsque j'avais besoin de savoir une route plus ou moins, enfin plus courte pour pouvoir atteindre là où je souhaitais aller, et puis pour éviter aussi le trafic routier si possible. Oui.
Donc on peut dire que ça aide vraiment.
Oui, je pense que ouais, j'en ai discuté avec quelques voyageurs qui ont choisi de le faire sans GPS, et beaucoup m'ont dit que c'était beaucoup plus difficile, notamment voilà, quand ils devaient par exemple trouver une adresse précise. Quand on est en Europe, ça peut encore se faire, mais eux me parlaient de ça quand ils étaient en Chine, et c'était pas du coup, ouais, c'était quand même assez difficile de pouvoir se repérer, de pouvoir comprendre les signes, et puis du coup de pouvoir demander aussi sa route. Ouais.
Est-ce qu'il y a des différences d'accueil selon les pays ? Est-ce que vous vous êtes senti mieux dans un pays que dans un autre, où vous auriez pu peut-être être un peu rejeté moralement ?
J'ai vraiment rarement senti du rejet de la part des gens. C'est surtout au début de la peur de la part d'eux, ou alors de la surprise un peu. Pour beaucoup, et c'était vraiment pas habituel de voir des voyageurs à vélo comme ça sonner chez eux. Le type de demande n'était pas habituel pour eux. Mais une fois qu'ils s'intéressaient un peu à ce que je faisais et qu'ils comprenaient bien ma démarche, il y en a beaucoup qui du coup ont été séduits et m'ont proposé de rester dormir dans leur jardin. Ouais, donc au final, ouais, non, j'ai pas trouvé de gens qui étaient vraiment opposés ou qui étaient hostiles à ma démarche. Non.
Pas de racisme anti-français ?
Non. Vraiment, vraiment pas. Quand on me demandait d'où je venais, je disais que je venais à l'origine de la région parisienne, et les gens étaient toujours émerveillés quand je citais Paris. Mais à part ça, non, les gens n'avaient pas d'image négative à propos de la France. Ouais, c'est vrai que, alors que c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que beaucoup pensaient, en tout cas, avant que je parte dans ma famille, par exemple, beaucoup s'imaginaient que je pourrait, dans certains pays, avoir des problèmes par rapport au fait que je viens de France, mais je n'ai pas du tout ressenti ça, non.
À l'université, vous êtes inscrit en quelle discipline ?
Alors, j'étudie la finance. Je suis en deuxième année de master à la faculté de finance, banque et comptabilité, donc qui fait partie du campus Moulins à Lille, près de la porte de Douai.
Est-ce que ça aide, ces études, pour anticiper ce type de voyage, préparer l'itinéraire, mais aussi le budget qui correspond ?
Alors, pour préparer le budget, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir des connaissances en finance. Bon, après, c'était pas non plus il m'a pas fallu des connaissances poussées dans ce domaine. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir des interlocuteurs au niveau de l'université pour pouvoir appuyer mon projet, pour pouvoir me soutenir, et puis relayer aussi ce que je partageais, toutes les publications que je pouvais faire sur Facebook et sur mon blog. Et donc, c'était intéressant à ce niveau-là d'avoir une institution derrière moi.
Est-ce que tous les pays dans lesquels vous êtes allé utilisaient l'euro comme monnaie ?
Non, il y en avait beaucoup d'ailleurs. Je me demande s'il n'y en avait pas plus qui n'utilisaient pas l'euro que de pays qui l'utilisaient. Ouais. Parce que je suis quand même allé assez... Enfin, surtout au début de mon voyage, j'étais quand même relativement souvent en dehors de l'Union européenne. Et donc là, forcément, les pays n'utilisaient pas l'euro. Puis même quand j'étais dans l'Union européenne, je suis passé par beaucoup de pays qui ont intégré l'UE récemment et qui n'ont pas encore l'euro. Je pense par exemple à la Hongrie, la Pologne, la République tchèque. C'est des pays qui sont dans l'Union européenne depuis plus de 10 ans et qui ne l'ont pas encore. Mais enfin, ça ne m'a pas posé de problème, en tout cas, de devoir changer de monnaie. Fallait juste que j'y pense un peu, que je me débarrasse de la monnaie avant de sortir du pays, parce que pour éviter d'avoir toutes les monnaies dans mon portefeuille en sortant, mais sinon, c'était pas un problème.
Il existe un convertisseur de toutes les monnaies qui sont dans l'Europe mais qui ne sont pas à l'euro ?
Je regardais ça sur internet, ou je demandais à ma famille en France de regarder ça pour moi sur internet, ouais, parce que je les connaissais pas tous, et puis des fois, ouais, j'avais pas internet dans le pays, donc je pouvais pas regarder moi-même là-dessus. Puis comme les cours varient, je pouvais pas non plus aussi les avoir notés avant de partir, par exemple.
Est-ce que vous avez ressenti de vraies différences de prix, justement, quand vous faisiez vos courses?
Oui, la différence était quand même assez importante. Bon, je pense niveau alimentaire, mais aussi, par exemple, dans des restaurants, ouais, c'était assez important. Je pense, par exemple, en République tchèque, un repas classique m'avait coûté 3 euros et je trouvais ça ouais, vraiment faible, en plus par rapport au niveau du pays qui se développe vraiment bien aujourd'hui. Et donc, ouais, c'est vrai qu'à côté de ça, par exemple, quelques semaines plus tard, j'étais en Suisse et là, c'était totalement l'inverse. Je trouvais des kebabs pour 12,50 €. Enfin, c'est assez impressionnant, ouais, la diversité qu'il peut y avoir en Europe. Au niveau du développement économique, au niveau des différences de pouvoir d'achat et de prix. Ouais.
Donc, votre voyage a duré plusieurs mois. C'était une période pas forcément facile, hein, au début, l'hiver.
Oui, c'est vrai que l'hiver, quand je suis parti, je suis parti de Milan en Italie. Et à ce moment-là, ouais, il faisait assez froid, assez humide. J'ai un peu regretté en fait d'être parti aussitôt. Bon, c'est sûr, ça m'aurait pas permis d'aller aussi loin si j'avais raccourci le voyage, mais c'est ce qui a été le plus dur en fait dans mon voyage, ouais, la partie comme ça où il faisait froid, je pouvais difficilement m'arrêter même pour faire une pause parce qu'il faisait trop froid, j'étais gelé, je pouvais pas manger le midi dehors, j'étais obligé d'aller toujours demander dans un café si je pouvais m'installer pour manger. Enfin, c'était assez difficile, ouais, à ce niveau-là. Ouais.
Pas de maladie en cours de route?
J'ai juste eu un rhume en Bulgarie, c'est tout. Ça a duré qu'une semaine et à part ça, ouais, non, j'ai vraiment pas eu de soucis. J'avais un peu mal au genou au début en Italie parce que bon, j'étais pas encore assez affûté, mais ça a vite disparu au fur et à mesure. Ouais.
Pas de médicaments sur place? Vous aviez un petit peu de stock?
Ouais, j'avais préparé une trousse de secours. Je m'en suis pratiquement pas servi au final. Ouais.
Donc au final, justement, c'est un beau voyage?
Ouais, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est quand on me demande bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous des anecdotes et tout. J'ai pas de gros pépin qui m'est arrivé. Il n'y a pas eu de rencontre vraiment. Surprenante. Enfin, j'ai rencontré des gens très 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 sympas, très très avenants et très amicaux, mais rien de mauvais ou d'hostile envers moi, rien de pas de gros pépins avec le vélo. Et du coup, on a l'impression peut-être que l'aventure n'était pas si si comment dire
riche.
Oui, c'est riche, mais au final, les rencontres que j'ai pu faire avec tous les gens, la proximité que j'ai pu avoir avec eux quand ils me permettaient de camper chez eux ou quand ils m'hébergeaient carrément chez eux, là, c'était vraiment des choses qui ont permis de donner au voyage toute sa dimension culturelle et puis et humaine. Je dirais.
Donc votre voyage, vous l'avez fait dans des conditions, j'allais dire, minimales, hein, pour résumer. Vous aviez un peu d'argent. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, vous avez dû demander une aide et à qui?
Alors, en tant qu'étudiant, ouais, c'était important pour moi de me faire soutenir. J'avais pas forcément la capacité de faire face au budget que ça demandait. Donc j'ai fait appel à la ville d'où je suis originaire en région parisienne, la ville de Suresnes, qui m'a soutenu à hauteur de 1/8 du budget. Et puis l'université de Lille, donc avec la FFBC, qui m'a soutenu aussi pour la moitié du budget. Grâce à ces deux partenariats-là, oui, j'ai pu déjà partir beaucoup plus aisément. Et j'ai eu aussi une marque de lunettes aussi qui m'a fourni une paire. Enfin, tous ces partenariats-là ont été vraiment importants. Et puis, je voudrais aussi souligner les gens qui m'ont soutenu, les particuliers qui m'ont soutenu, ma famille, des amis, grâce au financement participatif. Je proposais en échange d'une aide de leur part de leur donner une enfin de leur envoyer une carte postale, de leur donner un morceau de pneu d'un de mes pneus de voyage, de leur offrir un calendrier à mon retour avec mes plus belles photos. Enfin, tout ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur pour comment dire, donner le sentiment aux gens de s'investir vraiment dans mon voyage, de m'aider à le créer. Puis après, voilà, derrière, ils ont quelque chose, un beau souvenir, quelque chose qu'ils peuvent garder ouais, pour se rappeler de quelles contributions ils ont pu faire pour mon voyage. Et, ouais.
Donc, le bilan, ben, vous le faites aujourd'hui. Peut-être que vous présentez également cette aventure quelque part, dans des cercles privés ou publics.
Alors, ça commence à se préparer. Pour la semaine internationale, par exemple, à l'Université de Lille, on m'a proposé de faire une conférence. Bon, j'en sais pas encore beaucoup plus, mais ça devrait se faire, ouais, cette semaine-là. Oui, je suis ouvert à toute proposition pour faire des conférences sur mon voyage. Et je devrais faire aussi une exposition photo à la ville de Suresnes, justement, qui m'a soutenu, et pour publier mes plus belles photos pendant un événement autour de la jeunesse à Suresnes. Voilà.
S'il fallait repartir dans un de ces pays, si vous aviez le choix, lequel ou lesquels, hein, pourquoi pas?
J'aimerais bien retourner en Turquie, j'aimerais bien aussi retourner en Italie, notamment en Toscane. C'est un pays qui m'a beaucoup plu, surtout au niveau des paysages. Puis les gens aussi ont vraiment été très sympas en Serbie. C'est un pays sur lequel, par exemple, j'avais eu assez peu de bons échos avant. Et au final, j'ai été vraiment émerveillé dans ce pays. Les gens étaient vraiment très sympas, très avenants et très, très hospitaliers. Puis oui, au final, après, quand j'en ai discuté avec d'autres voyageurs, ouais, beaucoup m'ont dit que c'est vrai qu'ils avaient été très surpris au sens positif du terme. Ouais.
Donc, si on peut résumer le kilométrage, vous avez réalisé un parcours de combien au total?
Alors, ça fait 11 000 km, une moyenne d'à peu près 90 km par jour, il me semble. J'ai roulé sur 2 tiers du voyage à peu près, puis 1 tiers de repos ou visite des villes où je m'arrêtais, en fait.
Et Marc Lebel, s'il fallait aller plus loin, vous sentiriez capable, et jusqu'où, par exemple, jusqu'en Chine, pourquoi pas?
Bah, au final, ce qui est amusant, ouais, c'est que si on trace 11 000 km en ligne droite, ça m'aurait fait aller jusqu'en Chine et même
À
un petit peu
l'est de la
au-delà. Ouais.
Chine,
Ouais.
oui.
Ouais, c'est quelque chose qui est possible. Alors, moi, j'aimerais bien refaire un voyage, pas forcément en vélo, peut-être cette fois-ci motorisé, ou cette fois-ci avec quelqu'un d'autre aussi. Pourquoi pas sur un autre continent aussi, je pense à l'Amérique du Sud ou à l'Asie. Ouais.
Voilà, et pourquoi pas en tandem?
Et ouais, pourquoi pas en tandem, effectivement, c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa aussi. Ouais.
Voilà, si vous aviez quelques conseils à formuler aux gens qui se préparaient à vivre ce type d'aventure.
Je dirais de pas forcément préparer autant que j'ai pu le faire, parce que je pense surtout si on fait ça en Europe, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Les gens sont, enfin, les structures, les infrastructures, tout ça sont faites, et donc on peut s'adapter, on peut faire évoluer notre voyage en fonction des rencontres. Tous ceux qui ont l'idée de faire un voyage comme ça, je leur dirais de foncer, de pas s'arrêter à ce que les gens disent pour nous arrêter. Il faut écouter ses envies, et puis aller comme ça à la découverte. Les gens sont au final très généreux et très hospitaliers, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur comme ça.
Mais merci Marc Lebel de nous avoir fait partager votre aventure et peut-être une prochaine destination qui pourrait être.
Qui pourrait être je sais pas, on verra ça par la suite, mais ça sera Pas tout de suite, peut-être.
Et plutôt en été?
Ouais, peut-être plutôt en été cette fois-ci, ouais.
Merci et bonne continuation aussi pour vos études d'ailleurs.
Merci à vous.